Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Alors, c'est l'histoire d'un canapé-lit très moche, recouvert d'une espèce de velours olive orné de fleurettes, avec accoudoirs de bois clair et les fauteuils assortis. Quand sa propriétaire meurt de sa belle mort à 93 ans, sa fille unique charge ses deux fils et sa belle-fille de transporter le canapé-lit de Créteil, verdoyante banlieue parisienne où vivait la défunte, jusqu'à la famille familiale du Cantal, perdue dans le village de Lussot. Le voyage du canapé-lit de Pierre Jourde, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, est un drôle de roadbook, drôle et féroce, récit picaresque et folle épopée.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre Jourde, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Vous êtes tout à la fois l'auteur et un des protagonistes de votre voyage du canapé-lit.
Hélas.
Voilà. D'après une histoire vraie, pourrait-on dire, toutes les histoires qui sont racontées dans ce livre, sans exception, se sont réellement produites dans la vie, y compris donc le transport en camionnette d'un canapé-lit un week-end de Pâques. Ce qui fait de ce récit un roman, ce sont les dialogues, les conversations qui sont le fruit de votre imagination, la chronologie des faits que vous ne respectez pas forcément, c'est ce que vous précisez en préambule du voyage du canapé-lit. Et cet avertissement, en fait, nous aide juste à accepter très vite l'idée que le narrateur, l'un des deux frères de cette épopée, s'appelle Pierre Jourde. Et quand c'est à lui de prendre le volant, il a du mal à narrer. Et c'est tout à fait logique, on ne peut pas parler et conduire en même temps. Alors, sinon tout le reste n'est que roman, et c'est un vrai plaisir que de lire ce livre, comme lorsqu'on lit un vrai roman, avec comme protagoniste Pierre Jourde, son frère Bernard, et Martine, la femme de Bernard, la belle-sœur donc, et tout ce qu'ils vont se dire, les discussions littéraires, les digressions philosophiques, les souvenirs sans regret qui remontent en surface, tout ce qu'ils vont se balancer aussi comme vérité, autre méchanceté, toutes les névroses familiales qui vont ressortir durant ce trajet de Paris en Auvergne, nous captivent du début jusqu'à la 260e et dernière page de ce roman. Donc c'est un roman, on va en parler, mais d'abord, comment voit Pierre Jourde l'écrivain ?
Ça va bien, et ça va d'autant mieux que, je vous le disais tout à l'heure, je suis en train de terminer une pléiade consacrée à Joris Karl Huysmans, qui m'a demandé beaucoup de travail, et là je commence à souffler un peu, et entreprendre un roman, alors vraiment complètement romanesque et complètement imaginaire.
C'est-à-dire sans vous dedans ?
Sans moi dedans, oui, c'est ça. Aucun morceau de moi dedans. Et ça va me reposer de l'autobiographie.
Alors justement, puisque vous pratiquez l'autobiographie depuis longtemps, est-ce que vous construisez toujours de la même manière votre double littéraire pour restituer tel des chapitres plus ou moins ordonnés des épisodes de votre vie ?
Non, pas du tout.
Ça a évolué avec le temps ?
C'est juste que l'objet étant différent, la tranche chronologique étant différente, ça prend pas du tout la même forme. Dans le livre précédent, je parlais de la fin de mon fils. J'étais pas vraiment le personnage principal. J'étais très légèrement décalé, même si évidemment on est quand même aux premières loges. Et c'est sur une tranche de temps très limitée, hein, un an de sa maladie. Dans le texte précédent, je racontais l'épisode de tentative de lynchage dans le Cantal, qui a duré, alors là pour le coup, 3 minutes. Mais enfin, avec tout ce qui est autour. Et là,
et qui vous poursuit toujours d'ailleurs jusqu'à ce dernier livre.
Voilà, il en est question également. Là, en plus, il y avait un dispositif énonciatif qui fait que je disais tu, parce que je me parlais un peu à moi-même, comme comment dire. Mon père n'avait jamais eu la parole. N'avait jamais su parler. Et moi-même, j'avais cette même difficulté. Et se dire « tu », c'était un peu s'inciter à sortir de ce... C'était un peu se pousser pour sortir de cette espèce de repli qu'implique la difficulté de parole, qui a été mon problème aussi pendant un certain temps. Donc là encore, c'était pas le même dispositif. Et dans Pays perdu, je suis quasiment pas un personnage. C'est-à-dire, c'est du vécu, mais ce sont plutôt les autres qui sont les personnages. Donc, vous voyez, à chaque fois, le dispositif est complètement différent. Là, je ne suis qu'un convoyeur. Enfin, je ne suis qu'un convoyeur, j'exagère. Le personnage principal est un canapé qui me fait déclencher des histoires, en effet, qui me sont arrivées avec, au choix, un bidon de canoë, une paire de boules quies qui conduit à une tentative de meurtre. Je vais pas spoiler toute l'histoire, mais qui finit par le monde des livres. quoi encore? Différents objets maléfiques que j'ai traversés dans mon dans mon parcours.
Tout est vrai, sauf les dialogues, dites-vous en préambule du voyage du canapé lit Pierre Jourde. Les dialogues sont le fruit de votre imagination ou ils sont réécrits
Les événements sont vrais. Mais on se laissait jamais raconter pendant ce parcours de 6 heures ou 7 heures en camionnette. La chronologie est quelque chose d'embêtant parce que la chronologie est parfois contradictoire avec la tension narrative. Elle est très, elle peut donner quelque chose de pas forcément intéressant. Et il m'arrive, alors, je me suis trouvé dans la situation où j'évoquais un événement, par exemple, l'histoire du Cantal que je viens dont on a parlé là.
Et votre frère qui vous rappelle que non, vous vous trompez, c'est pas encore arrivé.
Ça n'est pas encore arrivé.
C'est drôle d'ailleurs.
Mais je me suis dit, mais après tout pourquoi on s'embête? On est dans un roman, donc le romancier est libre, il a le droit de quitter l'illusion réaliste, on s'en fiche de l'illusion réaliste et de dire bah après c'est pas encore arrivé mais c'est pas grave. On le sait, moi je le sais en tant que narrateur. Alors mon personnage n'a qu'à le savoir. C'est pour ça que à la fois tous les faits sont vrais. C'est pas du tout romanesque, mais c'est complètement romanesque de ce point de vue-là. C'est-à-dire que pour moi, le romanesque, c'est précisément la liberté chronologique. C'est l'essence du romanesque.
C'est un voyage en France, c'est aussi une manière de faire votre propre analyse de votre vie dans ce pays-là, mais tout commence par la mort de votre grand-mère, une grand-mère qui était radine. D'ailleurs, vous le dites, hein, la méchanceté, la duplicité, l'avarice incarnée, vous le dites, mais toute la famille était à peu près d'accord.
Oui, alors, bon, on peut peut-être un peu résumer l'histoire qui parle d'une névrose familiale. Ça tombe bien parce que ça tombe sur un canapé qui est quand même un objet freudien. Ouais. Donc c'est évidemment parfaitement raccord. C'est vrai que dans mes ancêtres, il y a beaucoup de gens qui étaient, qui se sont faits, qui ont travaillé comme des fous et pour qui du coup l'argent qu'on a gagné était quelque chose de sacré, qui passait avant tout.
Et avec eux, c'était les objets. L'argent, ça veut dire ça. Il fallait meubler la maison.
Voilà. Alors ma grand-mère était bouchère sur les marchés. Elle avait une âpreté certaine et tout le monde disait qu'elle était méchante dans la famille. C'était la méchante femme. Bon, les autres étaient assez gratinés aussi, mais elle, c'était la méchante. J'ai été élevé comme ça, avec cette image-là. Et c'est vrai qu'elle était d'une radinerie invraisemblable.
Même si vous précisez que si elle était radine, vous étiez bien égoïste aussi.
Ah bon, j'ai dit ça.
Ouais, vous avez dit ça.
Zut alors, j'aurais peut-être pas dû. Non, mais on savait, pauvre grand-mère, quand je pense que je suis en train de parler d'elle à la radio en ces termes, elle serait furieuse. On savait en allant chez elle pour Noël que il y aurait pas grand-chose, quoi. Où je raconte que c'était parfois des petits bateaux en plastique qu'on trouve dans les cafés de paquets, les paquets de café Mocarex.
Et qu'elle collectionnait.
Dans
un bocal.
Et qu'elle nous donnait. Et donc, cette femme et son mari boucher étaient tellement accaparés par leur boucherie, par leur marché, qu'ils s'occupaient pas de ma mère, qui du coup est allée chercher de l'affection ailleurs et l'a trouvée. Et ma grand-mère en a développé une jalousie féroce qu'elle a fait payer cash à ma mère, ce que je raconte dans le livre. Et du coup, quand elle est morte, c'était très curieux parce que récupérer ce canapé, comme bien vous pensez, lui faire faire, et faire 1000 kilomètres dans une voiture de location, ça coûte beaucoup plus cher qu'un canapé neuf. Mmh. Et celui-là était vieux et moche. Mais c'était visiblement un acte de l'inconscient. Il s'agissait de faire comme si, ma mère était vraiment la fille de sa mère et en héritait quelque chose d'elle qu'elle allait garder pieusement. C'était jouer le théâtre de l'amour filial.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Alors, en vous entendant, on a l'impression que ce dernier roman, votre dernier livre, Pierre Jour,
est très sérieux.
Le voyage du canapé-lit se concentre sur les névroses familiales. Elles sont présentes, mais pas du tout, parce que il y a quand même cette idée de voyage. Et ce voyage-là, à l'intérieur de la France, vous fait rappeler tous ces voyages que vous avez accomplis quand vous étiez jeune. Et alors là, c'est les virées 68 tardes ou baba, je sais pas comment on dit. Si vous vous dites post-bitnik, parce que vous êtes allé en road trip. Ouais, c'est ce que vous avez écrit. En Inde, au Tibet, mais pas seulement ces voyages-là.
Le voyage en Auvergne, c'était un voyage rituel qu'on faisait.
Bah oui, puisque vous reprenez la route de
la
des
même
vacances,
route, les mêmes étapes, etc. Et pour dans notre famille, c'était the voyage en quelque sorte, celui qui était d'une certaine manière rassurant, qui nous ramenait à nos racines, à la ferme, etc. Et c'est vrai que parallèlement, je suis devenu très vite un passionné de voyage un peu aventureux, on peut le dire.
Et la montagne, la mer,
oui, c'est ça.
Le lointain, ça. Surtout le lointain.
et ma pauvre mère était terrifiée à l'idée de ce qui se passait. Et c'est vrai qu'on l'a, de ce point de vue-là, on l'a pas beaucoup épargnée. Et comment dire, en même temps, ce voyage en Auvergne, c'était un petit peu la rédemption de tous les autres voyages, celui qui presque le voyage essentiel qui nous ramenait là où on devait être d'une certaine manière pour eux, pas pour moi, dans leurs yeux. Alors il y a eu le Guatemala, en effet, par exemple. Juste après, il y avait encore des milices à l'époque un peu dans la forêt, parce que la guerre civile venait de se terminer. Et je raconte un peu ce qui nous est arrivé à cette occasion, où en lisant Tintin et les Picaros, quand les Dupont et Dupont se font mettre le dos au mur et vont se faire fusiller, j'ai vu le moment où on allait vivre ça. C'était ce qui n'était pas absolument rassurant. Je raconte cet épisode à partir d'un objet maléfique qui est la sacoche où mon frère dissimulait son kilo de shit et assez d'argent pour tenir un an au Guatemala.
Parce que c'est ça votre idée, hein, votre idée de dire puisqu'on est encombré de cet objet, ce canapé-lit qu'il va falloir transporter. Vous vous souvenez que la malédiction des objets a commencé d'ailleurs chez votre grand-mère, et ça devient ça devient un peu le jeu de ce livre, d'un voyage à l'autre, d'un objet à l'autre.
Voilà. Alors le système des objets, pour parodier Baudrillard, c'est une je conçois ça comme une. Alors je fais semblant de croire que les objets sont maléfiques. Ce que je croyais un peu quand j'étais gamin. Je croyais qu'ils m'en voulaient à moi personnellement. Je croyais qu'ils faisaient des trucs quand j'avais le dos tourné, comme beaucoup de gens. Au fond, quand on sort de la chambre, que fait l'armoire?
Bon, ceci dit, l'armoire de votre grand-mère, excusez-moi Pierre Jour, des tableaux de votre grand-mère, on peut comprendre qu'on ait ce sentiment, quoi.
Exactement, exactement. Il y avait comme ça un côté un peu inquiétant, un peu paranoïaque. Ensuite, comment dire? Je prends ces objets comme des espèces de témoins, de symboles de notre rapport à la réalité. Ils sont souvent l'occasion d'expériences que j'ai rêvées, par exemple l'expérience de la descente en canoë en Amérique, que j'ai rêvé, que j'ai voulu, que j'ai imaginé et que j'ai raté. En l'occurrence, à cause d'un objet, à chaque fois. C'est comme si le réel venait se venger à travers un de ces objets, du fait que, pour l'aborder, on ait d'abord eu besoin d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne l'ait pas abordé purement. Qu'on l'ait abordé toujours en prévoyant quelque chose. Ah, le réel va avoir lieu un jour, telle est notre vie. Quand il a lieu, ça s'appelle la mort. Tiens, on est grave tout à coup, on est moins cueilli. Mais c'est ça le système, en fait.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité. chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7.
J'ai pris tardivement conscience du fait que c'est la Nationale 7 qui nous menait en Auvergne pour la plus grande partie du parcours. Quand je l'ai compris, j'étais déjà un adulte et j'ai dû le vérifier sur les cartes pour y croire. Je ne voyais pas du tout le rapport entre la route que nous connaissions et celle que chantait Charles Trenet. Les vacances au soleil, la mer, le ciel, l'été, les oliviers, l'amour joyeux. La route d'Auvergne, de la sortie de la forêt de Fontainebleau jusqu'à Varennes-sur-Allier, c'était en gros de sinistres bourgades, noircies par les pots d'échappement, ébranlées par le passage de poids lourds, et où on ne voyait jamais personne, comme s'il s'agissait de villages Potemkin, de décors destinés à donner l'illusion d'une présence. C'est dans le voyage du canapé-lit, Pierre Jourde.
Ça va faire l'effet Niort de Michel Houellebecq, je suppose.
Bah oui, c'est ça. Mais vous êtes un peu moins déprimé que Michel Houellebecq. D'ailleurs, vous êtes très joyeux dans ce roman.
Oui, c'est quand même un roman assez gai. Mais mon souvenir d'enfance de la traversée de la France par la Nationale 7, après, à Varennes-sur-Allier, elle oblique nettement vers le sud et la Provence. On l'a quittée là pour aller vers l'Auvergne. C'est la traversée d'une France grise, complètement grisâtre, avec des bourgs aux volets fermés sur la route.
Et personne.
Il n'y a personne. Ouais. Mais Vialat écrivait déjà « Je suis allé en Auvergne avec Jean Dubuffet, nous n'avons croisé aucun être humain ». C'est pas d'hier.
Alors, ce qui vous rapproche d'ailleurs de Michel Houellebecq, c'est que vous nous rappelez, je sais pas, d'ailleurs vous dites très bien que avec ce trajet en camionnette, vous dressez-vous aussi à votre manière, Pierre Jourde, la carte et le territoire, mais à votre façon, il y apprend plein de choses sur d'illustres inconnus ou devenus inconnus que le narrateur connaît, et vous rappelez que chaque village de France a sa célébrité locale ou nationale.
Oui, ça c'est une spécialité connue. Mais alors, je fais usage de Guy Coquille, par exemple, un homme du XVIe siècle qui est le premier grand théoricien de l'absolutisme. Qui se souvient de Guy Coquille? Pas grand monde.
De Ecpers.
Or, ça tombe bien, je l'ai même pas fait exprès, puisque traversant Nevers avec Guy Coquille, il est question de mes couilles. Donc ça tombait bien, ça me permettait de jouer en même temps phonétiquement sur le Q absent ou présent. Ecpers, il est question donc de l'abbé de Lille, qui était quand même considéré comme un immense poète, au moins aussi grand que Voltaire à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Et donc quelques vers de l'abbé de Lille ne sont pas inutiles pour se souvenir de ce grand homme.
Avec une envie de l'écrivain que vous êtes, Pierre Jourde, de réhabiliter certains poètes, écrivains oubliés.
Je ne sais pas s'il faut les réhabiliter. Mais ça fait surgir une toute autre conception de la poésie, celle de Banville, par exemple, sur Moulin, qu'on a, je crois, complètement oublié. Et puis ça permet aussi de prendre la mesure de ce qu'est la gloire. Qui lit encore l'abbé de Lille, qui eut une telle gloire?
Et vous parlez même de vous-même en tant qu'écrivain édité par La Blanche de Gallimard. Vous vous moquez un peu de votre statut, mais là, c'est parce qu'il y a votre frère et qu'il y a votre belle-sœur.
Oui, mon frère me fait jouer le rôle de l'intellectuel dont il peut se gausser, en effet. C'est vrai aussi que si je parle des objets et des objets maudits, ça devait venir à la fin, je devais en venir au livre. Au livre dont je pensais que il allait me permettre à un moment donné, justement, que ça allait être l'objet qui allait me sauver de la haine des autres objets. Donc j'ai pas aperçu tout de suite que c'était aussi un objet de séparation avec ma famille, de gens assez simples finalement.
Suite à la publication de Pays perdu?
Non, simplement parce que le statut d'intellectuel est un statut particulier. Quand on vient d'une famille de vendeurs à prise unique et de chauffeurs de maître, ça vous met tout de suite dans une position un peu spéciale, à la fois honorée, mais soit objet de blague, soit quelqu'un qui est un peu dans un autre monde, quoi. Vous savez, l'intello, quoi, il est dans son truc. Et puis, de séparation d'avec les racines, avec le pays, puisque ce livre m'en a séparé, d'une certaine façon.
D'une certaine façon seulement, parce que vous y revenez à chaque fois, Pierre Jourde.
Oui, justement, je reviens là-bas, parce que c'est chez moi, je vois pourquoi je n'irai pas. Et puis, de toute façon, cette rudesse et cette violence sont inhérents à la beauté tragique du pays, donc j'ai pas été surpris, et ça n'a pas changé grand-chose en réalité.
Vous lancez quelques piques aussi à quelques écrivains, Éric Chevillard, Philippe Djian.
Alors, attention...
C'est pas méchant, c'est un peu grinçant.
Oui, d'abord je suis un grand admirateur d'Éric Chevillard. Donc je fais une blague sur le lecteur d'Éric Chevillard que je représente comme une espèce de minable obsessionnel.
Bossu,
etc. Mais en fait, c'est un passage qu'il a lui-même... En fait, je me démarque d'un passage qu'il a lui-même employé pour décrire son propre... Je veux dire, c'est une private joke envers un ami.
Très bien.
C'est un peu...
Ce qui n'est pas le cas de Philippe Djian.
Non. Alors, il y a effectivement, dans mes repoussoirs, qui sont présents dans le livre, en tout cas, il y a Christine Angot, Philippe Djian et Yannick Enel, qui pour moi sont des caricatures d'écrivains.
Pourquoi ? La pauvre Christine Angot, elle aura eu et Michel Houellebecq et Pierre Jourde cette année.
Oui, c'est vrai, mais enfin bon, elle s'en remettra, elle a le cuir dur. Non, mais en fait, tout simplement que mes livres ont une double dimension, c'est-à-dire qu'ils sont toujours une tentative de se colter avec une réalité qui nous échappe, et la brutalité est un aspect de cette tentative de se colter à la réalité. Et c'est aussi des livres qui, puisqu'il s'agit de se colter avec la réalité, on ne peut pas nier le fait que notre réalité est constituée de langage, pour l'essentiel. Et que dans ce langage, il y a la littérature. Et que la littérature nous construit, nous fait, nous informe, nous forme. Et que, je crois, que défendre de la fausse littérature, en disant que c'est de la grande, de la bonne, précisément est une espèce de malfaisance réelle. C'est pas gratuit. C'est pas juste des mots. Je crois que, par exemple, enfin, c'est pas le sujet, hein, c'était juste en passant comme ça. Mais Yannick Enel est un très bon exemple parce que c'est quelqu'un qui est honoré comme un écrivain de valeur. Alors que ça me paraît très difficile de lire trois de ses pages sans les trouver grotesques. Mais bon, voilà, c'est vrai, c'est à argumenter plus finement que dans ce livre où le figurant passe rapidement.
Et Michel Houellebecq?
Je ne pense pas l'évoquer, mais...
Mais vous le lisez, Pierre Jourde ?
Je le lis comme tout le monde, oui. Ouais. Oui, avec, de manière très surprenante, des moments d'admiration pour certains livres, et des moments d'accablement pour d'autres. J'ai l'impression qu'il... Enfin, en tout cas, dans ma lecture, qu'il fait vraiment... qu'il va du... Enfin, du très bon, je sais pas. En tout cas, du très ambitieux, du fort, du puissant... à des auto-caricatures. Mais bon, c'est pas l'objet du livre non plus.
Le voyage du canapé-lit. Est-ce que vous avez des objets, des meubles que vous voulez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, Pierre Jourde, ou vous vous contenterez des livres que vous avez écrits?
Non, les livres, c'est pas mal, parce que c'est aussi un objet spirituel. Non, parce que la transmission, c'est quand même important quand on a...
Même des objets?
Ouais. Oui, enfin quelques œuvres d'art notamment, quelque chose assez belle. Oui, mais enfin en même temps, je crois qu'on peut s'en passer des objets, c'est vrai.
Merci beaucoup d'être passé. On peut réécouter cette interview de Pierre Jourde en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr, entre autres. D'ailleurs, au passage, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast du Réveil Culturel. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la coordination, Corinne Amar, et à la prise de son ce matin, Claude Nior. Demain, on parlera des coléoptères à l'occasion d'une belle exposition à Lyon. Merci Pierre Jourde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, merci. Le voyage du canapé-lit. C'est édité par Gallimard. Thank you.